On en dirait des nouvelles.
Marjorie Bertin.
Baptiste Antoine.
Pierre Plantier.
Bonjour, bonsoir. Le Sénégalais Léopold Sédar Senghor, le Guyanais Léo Gontran Damas et le Martiniquais Aimé Césaire sont officiellement les pères de la négritude. Mais qui sont leurs mères? Et si les instigatrices de ce mouvement, qui sera l'une des matrices intellectuelles des luttes d'indépendance des peuples noirs, étaient des femmes? En l'occurrence, sept sœurs martiniquaises. L'aînée, Paulette Nardal, vit le jour en 1896 à Fort-de-France. Avec sa sœur Jeanne, elles seront les premières femmes noires à étudier à la Sorbonne, à Paris, dans les années 1920. Créatrices d'un salon littéraire, autrices de textes engagés, musiciennes, universalistes, les Nardal ont bien posé les bases de la négritude. Pourtant, leur histoire fut spoliée. Un livre passionnant, naturellement préfacé par l'écrivain congolais Alain Mabon, Bankou, vient de paraître aux éditions Autrement. Les sœurs Nardal à l'avant-garde de la cause noire. Son autrice, la journaliste indépendante et scénariste Léa Mormin-Chauvac, leur rend hommage avec feu et réhabilite ces femmes de l'ombre qui brillèrent par leurs idées et leur engagement en les ramenant vers le Douvanjou. C'est ainsi que l'on nomme l'aube et la reconnaissance en créole. Elle nous en parle en direct sur RFI et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Léa Mormin-Chauvac.
Bonjour Marjorie Bertin.
Alors votre livre s'ouvre dans la maison familiale des sœurs Nardal. Paul, dite Paulette, comme son papa d'ailleurs, Émilie, Alice, Jeanne, Cécile, Lucie et André. Sept jeunes filles qui naissent à Fort-de-France, alors dans un milieu très privilégié. Leur père, Paul Nardal, reçoit beaucoup dans leur belle maison, pétrie de culture française. On peut dire que c'est un bourgeois. Ils sont noirs. Paul Nardal, c'est le premier ingénieur noir des ponts et des chaussées. C'est un descendant d'esclaves qui a réussi et qui va pousser ses filles à toutes s'instruire.
Oui, c'est la particularité de la famille Nardal et surtout de Paul Nardal. C'est un homme qui pousse ses filles à étudier et il les pousse à travailler comme des hommes. Mais de toute façon, à Fort-de-France, c'est une famille particulière parce que Paul Nardal est noir. Et c'est ce que je dis dans le livre, il est noir sans ambages. En Martinique, ça compte beaucoup. Parce qu'en Martinique, il y a une échelle, une hiérarchie entre les couleurs de peau qui fait qu'un homme noir bourgeois, c'est exceptionnel. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu encore. On dit qu'il est noir, noir comme Béhanzin, le roi du Dahomey, et ça impressionne. Ça impressionne les gens qui sont de classe populaire de voir un homme qui a la peau comme eux, qui s'est élevé au sommet de la hiérarchie sociale. Et c'est pour ça aussi, sans doute, que Paul Nardal croit beaucoup en la méritocratie républicaine. Il est persuadé que c'est comme ça que ses filles pourront s'élever à leur tour, et c'est ce qui leur instruit vraiment. Et c'est pour ça qu'il les encourage à se cultiver, à apprendre les lettres, à apprendre la musique, tout comme leur mère, Louise Achille.
Et puis aussi à entrer dans l'histoire, à laisser une marque, une trace d'elle dans l'histoire, une trace qui a été relativement effacée. Pour commencer, je me suis demandé spontanément en lisant le livre, pourquoi est-ce que vous avez voulu réhabiliter la mémoire de la sororie Nardal à travers cet essai, d'ailleurs très fourni et passionnant, qui j'imagine vous a aussi demandé un énorme travail.
Merci, merci beaucoup. Oui, ça m'a demandé un énorme travail. C'est un travail de plusieurs années. Qui a commencé avec un article que j'ai écrit pour Libération en 2019. J'étais journaliste au service ID et je vois passer la publication d'un livre de mémoire de Paulette Nardal. Et Nardal, pour moi, c'était simplement le nom d'un arrêt de bus à Fort-de-France. Mmh. Je suis martiniquaise par mon père et à Fort-de-France, j'avais déjà vu voilà, souvent sur des bus écrit Nardal. Et donc Nardal, c'était ça pour moi. Je vois que Philippe Grolmoun, donc c'est le nom de l'auteur, a recueilli les mémoires d'une femme, qu'elle a été journaliste, qu'elle a vécu à Paris dans les années 20, dans les années 30, qu'elle a tenu un salon avec ses sœurs, qu'elle a posé les pierres intellectuelles qui ont aidé à bâtir l'édifice Négritude et que je n'ai jamais entendu parler d'elle. Et là, je me dis, mais c'est pas possible, c'est étonnant quand même. Mmh. Comment je n'ai jamais pu entendre parler de cette femme, de ces femmes?
Oui, donc en l'occurrence, là, de Paulette, qui va venir avec sa sœur Jeanne, qui se fait appeler Jane parce qu'elle trouve ça plus chic, à Paris pour étudier les lettres à la Sorbonne. Alors, à l'époque, Paulette, elle est déjà institutrice. Qu'est-ce qui donne envie à ces jeunes filles de bonne famille de quitter la Martinique où, on le voit dans votre livre, elles ont un cadre de vie très privilégié, elles ont un confort social et puis elles ont aussi déjà une certaine indépendance. Et puis elles sont très aimées aussi, j'ai l'impression.
Oui. Bah, je pense qu'elles voulaient déjà repousser les limites de ce qu'elles pouvaient faire et qu'elle sentait sans doute qu'elle serait peut-être un peu à l'étroit dans ce milieu, certes très confortable, mais un peu bourgeois et convenu. Et Paulette Nardal et sa sœur Jane parlaient, étaient déjà anglophones, parce que leurs parents recevaient des intellectuels de la Caraïbe anglophone, justement. Et donc, je pense qu'elles ont voulu approfondir ces connaissances, et c'est pour ça qu'elles sont parties. Ça va devenir les premières étudiantes noires à la Sorbonne.
Mais alors, justement, on imagine qu'elles devaient être étonnées, puisque c'était les premières parmi des centaines d'étudiants. Comment est-ce qu'elles sont accueillies?
C'est pas simple hein, pour les sœurs Nardal, cette arrivée à Paris. Ce qu'elle dit, Paulette Nardal, c'est que quand elle était en Martinique, pour elle, elle était simplement Mademoiselle Nardal, une bourgeoise. Et quand elle est arrivée à Paris, elle est devenue noire. C'est quelque chose que beaucoup de personnalités noires ont raconté de cette arrivée à Paris. Je me souviens de Marie Scondé qui, au cours d'un entretien, m'avait dit « On arrivait à Paris, on découvrait qu'on était noir et que c'était un problème. » Et c'est ce que découvre aussi Paulette Nardal. Elle découvre à la fois que ça étonne, c'est-à-dire qu'il y a des regards étonnés,
un petit peu moqueur aussi.
Un peu moqueur, mais voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des regards à la fois étonnés, un peu... Qu'est-ce que c'est ? Voilà. Mais aussi des regards moqueurs. Et il y a aussi des colibés. « Oh, la belle blonde !» Ça, elle le raconte souvent.
Oui.
Elle passe devant la Sorbonne et les étudiants disent « Oh, la belle blonde !»
Donc, ce qui fait qu'elle découvre à la fois le racisme et la misogynie, quand même bien crasse, du Paris estudiantin de l'époque.
Exactement. Exactement. Et il y a une nouvelle, on va, je pense, y revenir plus tard, mais il y a une nouvelle qu'elle a publiée, Paulette Nardal, qui n'est pas d'elle, mais qu'elle a fait publier, qui raconte l'arrivée d'une jeune femme qui s'appelle Léa à Paris. Et cette jeune femme dit qu'elle sent que même si les gens sont proches d'elle, peuvent parler avec elle, sa couleur de peau reste une barrière et un frein. C'est-à-dire qu'elle peut nouer des amitiés, elle peut nouer des rencontres, mais l'intimité lui est interdite. Et sa peau reste scandaleuse puisque c'est une sans-mêlée.
Alors, rien de surprenant à ce qu'elle découvre le Paris noir aussi en même temps, par attrait et peut-être, au vu de ce que vous êtes en train de nous expliquer, par refuge aussi. Au cours des années 20, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'artistes noirs américains qui quittent l'Amérique pour s'installer en France. Alors, il y a des écrivains de la Harlem Renaissance, comme Langston Hughes, ou encore le clarinettiste Sidney Bechet, qui lui va s'y installer après la guerre. Petite fleur de Sidney Bechet sur RFI dans VMDN, où nous échangeons avec vous, Léa Mormin-Chauvac, à propos de votre essai consacré aux sœurs Nardal, qui vient de paraître aux éditions Autrement. Alors, Sidney Bechet fait partie de ces musiciens de jazz qui vont être attirés par Paris. Alors, c'est l'effervescence en cette période-là, notamment musicalement au bal nègre, qui est aujourd'hui connu sous le nom du bal Blomet. Et la grande vedette de cette époque, vous en parlez, c'est Josephine Baker et sa revue nègre, qui triomphe au Théâtre des Champs-Élysées, où elle rencontre un succès colossale. Jane Nardal, qui va participer en 1928 à la création de la Dépêche africaine, curieusement, a priori, elle n'est pas tendre envers Josephine Baker quand même. Elle l'a décrit dans un article que vous citez comme la petite capresse qui gueusait sur les trottoirs de Saint-Louis. C'est pas très sympa, hein. Qu'est-ce qu'elle lui reproche ?
Cet article, il est plus compliqué, peut-être que j'ai trop tronqué l'extrait. Elle décrit l'effet que fait cette petite capresse qui gueusait sur les trottoirs de Saint-Louis au public blanc. Et ce qu'elle décrit, c'est que justement, Josephine Baker crève la toile, mais crève la toile aussi doudouiste. C'est-à-dire que c'est un article qui est vraiment sur le fil et qui est assez dur à analyser, je trouve, parce qu'à la fois, elle est fière et on sent une certaine fierté de voir que Joséphine Baker plaît à ce public blanc, plaît à ce public parisien, et de voir qu'ils sont fascinés par elle et qu'en fait, ça devient une icône de beauté, qu'on la voit partout. Et en même temps, le fait de voir cette femme qui danse à moitié nue avec une ceinture de banane, elle sent qu'il y a quelque chose aussi de fétichisant et de dégradant pour la femme noire qu'elle est.
Vous évoquiez le doudouisme il y a quelques secondes. Comment est-ce que vous le définiriez simplement ?
Le doudouisme, c'est un courant littéraire, un courant culturel de ces années-là qui a tendance à mettre en valeur, mais d'une façon très fétichisante, les cultures exotiques. C'est la culture de la doudou, lascive, allongée, au soleil, sensuelle, dans la tente.
Oui, qui ne fait pas grand-chose, qui a d'autre qu'attendre un homme.
Voilà, exactement. Et ça, c'est un cliché qui a beaucoup cours sur les femmes antillaises, qui est encore cours d'ailleurs. Mais dans ces années-là, il prend vraiment un essor terrible. Et on voit des cartes postales vraiment de ces belles antillaises lascives qu'on voit avec des colons français. Et je pense que c'est ce qu'elle voit, Jeanne Nardal aussi, dans l'attrait qu'exerce Joséphine Baker sur le public. Elle perçoit qu'il y a à la fois une forme de revanche pour les femmes noires et une forme enfin de lumière braquée sur elles. Mais qu'est-ce que c'est que cette lumière ?
Oui, c'est peut-être pas les bonnes raisons. Et c'est peut-être pas ce qu'on aurait envie de montrer de la femme noire qui est présentée sur scène à ce moment-là, d'où le malaise.
En tout cas, ce n'est pas ce qu'elle, Jeanne et Pauline Nardal mettent en avant d'elle en tant que femme noire. C'est ça. C'est-à-dire que elles veulent vraiment à tout prix prouver leur respectabilité. Il y a quelque chose quand même chez ces femmes qui est vraiment hérité et qui se crée en même temps que la Harlem Renaissance, c'est-à-dire ce besoin de prouver aussi qu'on est l'ego des Blancs, mais c'est-à-dire qu'on n'est pas primitifs, on n'est pas des animaux. Et quand on danse avec une ceinture de banane à moitié nue, ça évoque la primitivité. C'est
oui,
ça
clairement.
Qui les embête.
Et justement, alors elles, parallèlement, pendant ce temps-là, elles vont se lier avec énormément d'artistes, d'intellectuels. Qui sont les gens que fréquentent les sœurs Nardal ?
Alors à Paris, déjà, Paulette arrive à Paris l'année où René Maran obtient le premier prix Goncourt noir. Elle va fréquenter René Maran. De toute façon, les communautés antillo-caribéennes se retrouvent assez facilement. Et elle finit par se lier d'amitié avec lui, avec sa femme Camille. Elle fréquente leur cercle. Et grâce à l'entremise de René Maran, elle va fréquenter des auteurs afro-américains. Ces fameux auteurs de la Harlem Renaissance. Allen Locke, elle est une fan absolue de son New Negro, son anthologie. Elle va fréquenter Claude Maquet, qui vraiment dit qu'il l'adore, il adore ses écrits. Elle va fréquenter Augusta Savage, la sculptrice. Elle va fréquenter toutes ces personnalités, mais elle va aussi fréquenter Léopold Sédar Senghor.
Oui.
Qu'elle va inscrire à la Sorbonne.
Oui, elle va, on en parlera tout à l'heure, mais elle va sacrément l'aider et l'accueillir aussi. Et alors, qu'est-ce qui les lie, ces personnalités, ces intellectuels ?
Ce que dit Paulette Nardal, c'est que c'est au contact des écrivains afro-américains qu'elle admire au passage, qu'elle admire déjà, puisqu'elle admire beaucoup, avant même de les connaître, leurs textes. Mais c'est à leur contact qu'elle découvre l'expérience commune du racisme par celle de la ségrégation que subissent les Afro-Américains.
Oui, et puis d'une histoire qui est somme toute différente aussi
Exactement. En
Amérique que la situation dont elles héritent aux Antilles, pour parler largement en fait.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement Paris étant le centre de l'Empire colonial, et découvrent aussi des personnes d'autres pays de l'Empire qu'ils ne connaissent pas, donc d'autres Noirs. Et elle rencontre aussi en fait des Guadeloupéens qu'elle ne connaît pas, qu'elle ne connaît pas à la Martinique. Donc je pense par exemple au député Satino, enfin celui qui deviendra le futur sénateur Satino. Elle rencontre toutes ces personnalités et ensemble, ils peuvent débattre, mais ils peuvent aussi constater cette expérience commune du racisme. Et ça va être vraiment, vraiment déterminant pour les années à venir.
Oui, puis les armes aussi, parce que c'est dans cette période qu'elle commence à écrire et à publier. En 1928, Jeanne Jane, appelons-la Jane puisqu'elle voulait qu'on l'appelle Jane, elle décrit dans l'internationalisme noir la rencontre à Paris des Afro-Américains, des Africains et des Caribéens, justement. Et elle écrit Dorénavant, il y aurait quelque intérêt, quelque originalité, quelque fierté à être nègre, à se retourner vers l'Afrique, berceau des Noirs, à se souvenir d'une commune origine. Le nègre aurait peut-être à faire sa partie dans le concert des races, où jusqu'à présent, faible et intimidé, il se taisait. C'est ce que vous citez à la page 63 de votre essai. Et vous précisez que ces deux dernières phrases, pour vous, sont vraiment la quintessence de la négritude.
Parce que, en fait, ce qu'elle découvre principalement, je mets l'accent là sur l'expérience du racisme, mais c'est aussi la fierté noire. Elle découvre les spirituals, les chants, les Fisk Jubilee Singers, Roland Hayes, la cantatrice Marianne Anderson. Elle découvre des arts noirs, de la sculpture, elle découvre la peinture, elle découvre qu'en fait, au bal Blomé, les gens adorent la biguine. Cette biguine qu'elle, elle méprise un peu dans leur salon, qui était un peu dansée. Elle disait que
oui,
quand
parce
elle
que c'est une danse populaire, oui, forcément. Elles sont oui, plus musique classique oui, que biguine.
C'est ça. Et elles arrivent à Paris, elles sont pétries de culture occidentale, pétries d'humanité. Elles ont tendance à... Mais évidemment qu'elles aiment aussi leur culture caribéenne, qui est jouée chez les parents Nardal. Mais enfin, on a toujours un peu tendance à faire semblant dans des mazurkas comme ça, qui tirent un peu vers autre chose. Bon, là... C'est un motif de fierté. Le public les adore. Leur culture est encensée. Et ça, c'est un motif de fierté immense.
Et puis, les Nardal créent, dans la foulée, à Clamart, en région parisienne où elles se sont installées, leur salon. Et alors là, on est en pleine tradition de l'esprit des philosophes des Lumières du XVIIIe siècle français. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est que ce salon? Et qui le fréquente? Alors, on imagine, évidemment, René Maran, d'autres écrivains...
René Maran, il reçoit chez lui aussi tous les vendredis.
Elle, c'est le dimanche.
Et elle, c'est le dimanche.
Et on n'a pas le droit de boire d'alcool?
On ne boit pas d'alcool, on boit du thé. C'est vraiment des réunions très polissées, très courtoises. Mais en même temps, on débat, on joue de la musique, on échange et on voit éclore de grandes idées. Les Achilles, qui sont donc les cousins des Nardal, eux disent que ce n'était pas un salon littéraire au sens... Ça n'a pas été pensé comme ça. Ils disent que c'était plutôt la reproduction de la tradition familiale de recevoir au pays en Martinique. C'est-à-dire que c'était une famille qui recevait beaucoup, que le père Paul Nardal avait fait aménager le salon de la maison familiale de la rue Scholcher pour qu'on puisse jouer de la musique à Fort-de-France, pour qu'on puisse jouer de la musique, pour qu'on puisse recevoir, pour qu'on puisse assister à des représentations. Je pense qu'il y a que c'est un entre-deux, parce que je suis sûre qu'elles aimaient aussi se dire qu'elles étaient dans cet héritage quand même des Lumières, quand on sait à quel point elles aiment les humanités. Donc c'est un mélange des deux. Je pense que ça vient un peu aussi de manière spontanée. Qui est là? Qui est à Paris? Venez, on va discuter. Et puis finalement, de réunion formelle, ça devient quelque chose d'installé. Et tous les dimanches, on se retrouve au Salon des Sœurs Nardal, rue Hébert, à Clamart, et ça devient le salon de Clamart.
Et alors, vous disiez il y a quelques instants que de grandes idées vont y naître. Qu'est-ce qui naît?
Maintenant, je ne peux plus dire que la négritude naît dans le salon des Sœurs Nardal, parce que l'enquête m'a permis de peut-être nuancer ce propos, mais je pense
quand même
qu'elle pose les pierres essentielles pour qu'ensuite l'édifice soit bâti, les fondations. Et en tout cas, il y a là l'éveil de la conscience noire. Ce sera de toute façon... L'éveil d'une conscience noire, d'une forme de conscience noire. Elles sont multiples. Et ce sera le titre d'un article fameux de Paulette Nardal, l'éveil de la conscience de race.
Avant d'en parler, je vous propose d'écouter l'interview d'un homme illustre qui avait très bien compris les idées de Paulette et de Jeanne.
Vous avez lancé le mouvement de la négritude. Que faut-il entendre par négritude?
Oui, je sais que le mot n'est pas très bon. Mais on n'a pas trouvé d'autre. En tout cas, il dit bien ce qu'il veut dire. C'est un mouvement littéraire et qui s'est donné pour but d'exprimer les problèmes de l'homme noir et sur la base d'une prise de conscience par celui-ci de sa propre et de sa véritable condition.
Fanon, lui, doutait que les vocations de contrées lointaines, nègres, puissent améliorer ici le sort des enfants, des ouvriers.
De contrées lointaines, non, elles ne sont pas si lointaines. Il s'agit de renouer et avec les traditions, de les actualiser. Il s'agit de resituer l'homme noir dans l'histoire. Et dès que l'on définit ainsi la négritude, on s'aperçoit que cela peut peser sur la réalité, après tout. c'est l'histoire qui fait la conscience. Mais dialectiquement, la conscience pèse aussi sur l'histoire.
Aimé Césaire, interrogé en 1963 par Maurice Huellin dans Préface, une émission de la télévision suisse romande que vous écoutez dans VMDN sur RFI. Alors Césaire, c'est l'un des pères de la négritude dont il rappelle ici les bases. Vous disiez tout à l'heure que ça diffère un petit peu, le projet, l'idée des sœurs Nardal. En quoi est-ce qu'elle était semblable à celle que va reprendre, disons, bien intégrer et développer Césaire?
Elle est semblable, parce que l'idée essentielle, c'est d'explorer les racines africaines des peuples noirs, d'en être fier, de les affirmer et de les trouver tout aussi intéressantes, valides et légitimes que les cultures européennes.
Alors, explorer les racines noires, les graver aussi sur le papier, arrive le premier grand moment de la vie littéraire des sœurs Nardal. Avec le soutien financier d'un dentiste haïtien, Paulette va créer la Revue du Monde Noir, donc qui va être une revue bilingue, on comprend pourquoi maintenant français-anglais, qui va publier 6 numéros, qui vont être, vous l'écrivez, les ferments en fait, de la négritude aussi. Qui sont les intellectuels qui vont y contribuer? Quel est le type d'intellectuel qui y contribue? On lit dans votre essai qu'il y a même des blancs, je crois, dans le premier numéro.
Elle fédère beaucoup de monde, Paulette Nardal. C'est une personnalité très fédératrice, elle est très appréciée. Et donc, en fait, il y a beaucoup de monde qui écrit dans la Revue du Monde Noir. Il y a donc le docteur Sajou, ce docteur haïtien, qui fréquente plein de milieux, des milieux plus radicaux comme ceux de Lamine Senghor, mais aussi le milieu plus réformiste de Paulette Nardal. Et puis, il y a aussi...
Et puis, qui est formidable, il faut le souligner, puisqu'il va soigner, il a son cabinet, je crois, à Ménilmontant, où il soigne gratuitement des ouvriers qui ont des dents vraiment très, très, très abîmé. Enfin, c'est quelqu'un qui est vraiment dévoué.
Exactement. Et il est haïtien, le docteur Sajou. C'est ça, c'est intéressant aussi parce qu'on voit, je pense, vraiment, la revue symbolise aussi les coins du triangle noir, quoi. De la Caraïbe et l'Afrique et l'Europe et de vraiment la circulation de ces idées. Elle fait aussi écrire Félix Eboué. Elle fait aussi écrire Clara Shephard, qui deviendra une auteure connue. Elle fait écrire sa sœur, André Nardal, sa petite sœur, décédée prématurément, sur la Biguine. Elle fait écrire de nombreuses personnalités. Elle fait aussi écrire des patriotes de l'Action française qui décrivent l'exposition coloniale. C'est tout le paradoxe et c'est tout aussi, je crois, la... Je ne sais pas trop comment le dire, c'est délicat, mais en tout cas, la richesse de la pensée de Paulette Nardal qui veut parler à tout le monde et faire écrire tout le monde, quitte à parfois perdre un peu le... En tout cas, nous perdre un peu. Ça a été une grande interrogation, moi, pendant l'écriture du livre. Elle fait... Et c'est parce que vous me parliez de, justement, ces auteurs blancs. Elle fait écrire vraiment beaucoup de monde, des gens qui ont des casquettes politiques très différentes et d'ailleurs, des gens qui créent des Martiniquais. Je pense notamment... à René Ménil, qui écriront plus tard une revue, Légitime Défense, qui va faire date et qui est vraiment marquée communiste et surréaliste. Alors que
Paulette Nardal n'aime pas trop ni le communisme, ni le surréalisme.
C'est vraiment, vraiment pas son écurie politique. Elle les fait écrire quand même.
Mais j'ai l'impression, j'ai eu le sentiment en lisant votre livre, Léa Mormin-Chauvac, et j'insiste vraiment dessus, qu'il est à la fois très érudit, très documenté et très passionnant. C'est pas un livre qu'on lâche facilement. J'ai l'impression que cette complexité, elle vous plaît beaucoup aussi personnellement. Justement, le fait que ce soit pas manichéen, hein, que ce soit pas noir ou blanc.
Moi, je trouve ça intéressant, en tout cas, qu'elle ne soit pas cantonnée à une identité politique à laquelle elle devrait être assignée en tant que femme noire ou en tant que femme bourgeoise. En fait, ce que je trouve intéressant avec Paulette Nardal, c'est qu'à aucun moment, elle se dit que ce qu'elle est ne doit la définir. Voilà. Je pense que c'est une forme de liberté. C'est peut-être un peu... c'est peut-être un peu étonnant de le dire comme ça, mais c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez elle. Elle avait tendance à dire qu'elle n'avait pas la tête politique. Et Ça, c'est
ce qu'on a un peu de mal à croire en vous lisant aussi.
Non, ça, c'est un truc qui m'agace chez elle. Je suis sûre que c'est faux et que c'était une manière de se protéger d'attaque. Et c'était vraiment des choses qu'elle a dit vraiment tard dans sa vie. Donc, je pense que c'était pour... C'est ça, se protéger. Mais en tout cas, elle est quelqu'un de dense, de complexe, qui a envie d'étudier un peu tout ce qu'elle peut, qui est avide de savoir. Et c'est quelque chose qui me plaît, oui, évidemment.
Oui, et puis aussi, alors, dans sa complexité, il y a le fait qu'elle ne sera... Elle essaie de penser l'appartenance des Noirs à une communauté, mais à la fois, simultanément, à l'Empire français. Elle ne sera jamais anticolonialiste déclarée.
Jamais. Jamais. Ça, ça m'a étonnée, justement, parce qu'elle a beaucoup été décrite comme anticolonialiste. Ça aussi, ça m'a posé beaucoup de questions durant l'écriture de cet essai. Et je crois que c'est vraiment la lecture de l'essai de Annette Joseph Gabriel, Imaginer la libération, aux éditions Rodebeau Creek. Elle consacre vraiment tout un chapitre à Paulette Nardal, au retour de Paulette Nardal en Martinique. Et elle explique comment le combat de Paulette Nardal pour le droit de vote des femmes, enfin en tout cas pour que les femmes martiniquaises s'emparent de ce droit de vote qui a été... accordé, je le dis avec des guillemets, par le général de Gaulle. Mmh. Elle combat pour ça. Elle dit comment c'est une façon pour Paulette Nardal de s'inscrire. Cette façon de s'inscrire dans la citoyenneté française, c'est une façon de lutter pour l'égalité des peuples colonisés. C'est très délicat, c'est ténu, c'est difficile à expliquer. C'est une position que j'ai mis longtemps à comprendre. Ça aussi, je trouve ça passionnant. C'est vraiment quelqu'un de très nuancé, Paulette Nardal. Mmh. C'est quelqu'un dont la pensée n'est faite que de nuances, de touches, d'allers-retours. Et c'est pour ça qu'elle est très difficile à appréhender, je pense.
Et puis alors, son écriture, son engagement concret aussi est très, très fort. On apprend beaucoup dans votre essai, Léa Mormin-Chauvac, aussi sur la résistance en Martinique et sur la dissidence, mouvement que personnellement, je ne connaissais pas, que vont former environ 4000 jeunes martiniquais pour défendre la France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le fils de Lucie Nardal sera d'ailleurs agent de liaison dans la résistance. Il va être arrêté, il va mourir dans un camp en Allemagne en 1944. La famille, c'est atroce, aura la confirmation de sa mort en 1965, soit 20 ans plus tard. La Seconde Guerre mondiale, elle est au cœur d'une grande exposition à laquelle s'est rendu notre correspondant Fabien Essiane à l'Institut français de Brazzaville, Radio Brazzaville, une radio mise sur pied par la France libre pendant la Seconde Guerre mondiale afin de contrer la propagande nazie et de stimuler les forces françaises.
Voilà le générique qui a marqué les auditeurs de cette radio dans les années 1940. La Seconde Guerre mondiale faisait rage. La France était en difficulté. Le pays du général de Gaulle avait besoin d'un second souffle. Et c'est en Afrique qu'il le trouve. Brazzaville est alors choisi pour être au cœur du dispositif de reconquête du territoire français occupé. C'est dans ce contexte que va naître Radio Brazzaville. Elle va porter la voix de la France à travers le monde, comme ce message du général de Gaulle en personne depuis Brazzaville.
Voici que la voix libre de Radio Brazzaville devient soudain plus forte et plus claire. La capitale désormais légendaire de notre Afrique équatoriale, la France qui combat, va se faire entendre, non sans mesure, beaucoup mieux. Et beaucoup plus loin.
Pour Claire Bodoni, l'ambassadrice de France au Congo-Brazzaville, l'Union avait fait la force à cette époque. Et ceci avait été un atout majeur dans le processus de libération de la France.
Il y avait en Afrique des peuples résistants. Et la résistance au nazisme, elle était au Tchad, elle était au Cameroun, elle était au Congo. À ce moment-là, on ne le savait pas. À ce moment-là, il n'y avait que l'énergie, je dirais, de l'espoir et non pas l'énergie du désespoir.
Un passé glorieux qui suscite un intérêt certain dans l'establishment éducatif congolais. Enzo Bakuga est un élève de la classe de terminale au lycée Saint-Exupéry de Brazzaville. Il a, en compagnie de ses camarades de classe, visité cette exposition inédite.
La radio a joué un rôle assez important dans cette guerre parce qu'à un certain moment, on parlait maintenant de guerre d'ondes. Et la France devait avoir des armes pour pouvoir contrer la propagande de l'Allemagne nazie. Je pense que c'est assez important de venir voir ce genre d'événement parce que ça montre un peu l'alliance qu'il y a eu dans l'histoire entre la France et le Congo et des débuts de la radio congolaise. L'exposition est assez riche.
En septembre 1944, l'aventure de Radio Brazzaville est alors à son apogée. Et bon an mal an, elle fait face à tout type de subterfuges et forfaitures qui font rage entre la France libre et ses adversaires. Le bon Chansar Ziavoula est un spécialiste des archives photographiques du Congo-Brazzaville.
Moi, ça me réjouit parce que je suis passionné des archives et c'est toujours important de montrer à la nouvelle génération ce qui a été et d'où nous partons en fait. Radio Brazzaville qui est devenue Télé Congo et puis de l'autre côté on a la Radio Congo. Les jeunes découvrent en fait l'histoire de leur pays.
Le rôle joué par cette radio s'est situé au-delà même du continent africain. Claire Bodoni.
Les prémices posées par Radio Brazzaville ont permis de jeter les bases d'une paix durable, celle que l'Europe connaît depuis maintenant 1945.
Des mérites qui ont fait réagir Lydie Pongol, la ministre de la Culture du Congo-Brazzaville, de passage à l'exposition.
Je suis fière et je pense que le peuple congolais également est fier parce que nous avons participé à la libération d'un pays qui était opprimé.
Radio Brazzaville n'a pas seulement été la voix de la France, elle a aussi été celle de l'Afrique. Et les obstacles, elle en a fait face à travers des tentatives de brouillage par le camp adverse qui, faute de ne pas l'avoir fait taire, a mis sur pied Radio Brazzaville 2, qui a fini par mourir, elle, de sa belle mort.
Un reportage de Fabien Essiane dans VMDN sur RFI. Alors, on parle très peu de la participation congolaise à la libération, de celle des Antilles aussi, Léa Mormin-Chauvac. Votre héroïne, on peut le dire comme ça, peut-être votre sœur préférée, Paulette Nardal, quant à elle, elle va donner des cours d'anglais à de jeunes Martiniquais qui vont rejoindre la résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Paulette Nardal, quand elle rentre en Martinique, elle a besoin de gagner sa vie comme tout le monde. Elle redevient prof d'anglais. Et parmi les jeunes hommes à qui elle va enseigner l'anglais, certains rejoignent la dissidence, effectivement, les îles anglaises, pour devenir résistants. C'est quelque chose sur lequel on a évidemment peu d'archives, peu de sources.
D'autant qu'elle n'en fera pas cas elle-même. Quand elle sera interrogée sur le sujet, elle va répondre avec beaucoup d'humilité. De manière très succincte, en fait.
Elle est très évasive sur le sujet et globalement, Paulette Nardal, elle ne mettait pas peu en avant ses combats et les choses pour lesquelles elle avait lutté. C'était quelqu'un de très discret et de très humble. Et c'est ce qui fait sans doute aussi qu'on peut aujourd'hui affirmer qu'elle n'a pas fait certaines choses. C'est ce qui est un peu dommage et paradoxal. En tout cas, sur cet épisode, elle est toujours restée très discrète. Et quand Philippe Grolmoun, qui donc est ce fonctionnaire qui l'interroge dans les années 70, et qui a publié ses mémoires en 2018, lui demande ce qu'il en est de sa participation à la résistance via la formation de jeunes résistants anglais, elle évacue tout de suite la question, elle n'en parle pas.
Peut-être que je me suis demandé en lisant l'essai, et je repense en vous écoutant, peut-être aussi qu'elle n'avait pas un ego suffisamment fort pour se lancer dans la politique, parce qu'elle fustige aussi, et vous citez certains de ses écrits. Alors, elle, c'est une femme quand même qui est pleine de paradoxes, parce qu'elle a un style très très libre, très étonnant, pour une dame qu'on imagine quand même un peu gardée, très croyante, très pratiquante, etc. Mais alors, quelque chose qui l'énerve par-dessus tout, c'est l'état de frénésie, d'excitation qu'elle voit chez les Martiniquaises à l'approche des élections. Et puis alors, elle n'est pas tendre envers les hommes non plus, dont elle dit que, bon, enfin, le culte de la personne, ça suffit bien à un moment donné aussi, faudrait peut-être redescendre un petit peu et dégonfler. Ça va lui porter préjudice, cette humilité et ce franc-parler en même temps aussi ?
Complètement. C'est l'historienne Valériane Edmond-Mariette qui souvent rappelle que la foi catholique de Paulette Nardal l'enjoignait à une certaine forme de modération, pudeur, modestie, retenue. Et quand elle est à Paris, en fait, Paulette Nardal, elle vit ce qu'elle-même, elle appelle une épiphanie spirituelle. Elle fréquente beaucoup les Dominicains, elle fréquente beaucoup l'association Adlucem, qui est une association religieuse qui forme beaucoup d'élites politiques qui vont ensuite servir dans les colonies françaises. Et pour elle, je crois qu'il y a vraiment une forme d'exigence morale à comme ça ne pas se laisser avoir par des émotions si vives, par autant de chaleur. Elle est assistante parlementaire de Joseph Lagrosière, premier député socialiste. Elle quitte son secrétariat. Mmh. On ne sait pas vraiment pourquoi.
On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Mmh. Peut-être histoire d'amour.
Peut-être une histoire d'amour.
Contrarié.
Voilà, c'est ce que la rumeur dit. Mais bon, on va essayer d'éviter de travailler que sur les rumeurs. Mais en tout cas, ce qu'elle, elle dit, ce qui est certain, c'est qu'elle l'écrit, elle lui fait lire un livre, je ne sais plus, j'ai oublié. Mais en tout cas, c'est un livre religieux. Et elle l'entend jeter le livre à travers la pièce parce que lui, il est vraiment athée et que pour lui, c'est un ramassis de bêtises et qu'il ne veut pas du tout lire ça. Et je pense que c'est quelque chose notamment qui a ensuite un peu séparé leur chemin. Et je crois que l'exubérance politique, c'était quelque chose qui l'a retenu, qui l'empêchait d'aller vers... Alors que finalement, elle a travaillé pour lui et pour Galandou Diouf, qui était aussi députée du Sénégal. Elle travaillait pour des hommes politiques, elle connaissait la politique. Elle était impliquée finalement dans la politique, mais il y a toujours une forme de rejet, parce qu'elle n'aimait pas justement tout ce qui est sans doute le côté théâtral de la matière.
Oui, qu'elle préférait sans doute certainement l'engagement, la voie de l'écriture aussi, dont peut-être elle avait le pressentiment... que ses écrits resteraient, que peut-être ils mettraient du temps avant de refaire surface grâce à des livres comme le vôtre, mais que finalement, un jour, viendrait leur heure. Et puis, ce qu'on va découvrir aussi dans quelques instants, comment est-ce qu'on peut s'emparer de ce qu'elle a mis ou voulu mettre en place aussi, Paulette Nardal. Ce sont bel et bien des femmes de cœur et d'engagement, tout comme notre lauréate du prix Découverte RFI, je ne sais pas si vous la connaissez, la rappeuse de Brazzaville, Jessie B, à l'honneur ce mois-ci dans notre playlist. Yeah. Yeah. Moi aussi.
Oh. Oh. Moi aussi. J'ai pas besoin de faux nails, mais du crédit tous les jours, ça pomme. J'avance sans reculer, tu me traites comme un bébé sans te mentir, chérie, ça pomme. Ne sois pas étonné que je prenne de l'avance, car tes jeux t'aiment laisser des pannes. À 5h du mat', il fait froid, tu sais. J'ai Mike et Disa qui sont chauffes. Mato, tout est noir dans mon cœur, tu sais. Bekabanja, Nibaturi, Timarambandi. Amame, Bekabanja, Nibatala, Beka, Kenanyandi. Tu le sais, depuis qu'ils ont cassé les côtes, ils se croient au sommet. Et certains de se monter beaucoup dans ton rap, mais le succès s'en moque. Et le succès s'en moque. Hey. Tu parles de la concu c'est quoi? Hey. Tu parles de la concu c'est qui? Hey. Tu parles de la concu c'est toi? Hey. J'ai mes bails dans mon coin, la grosse tête dans mon jeu. Je fais sur une prod et je plane sans en prendre. J'ai plus le temps, je suis pressé, maintenant tout est précis. Sans que la pression monte, certains m'apprécient. Je sens que la pression monte, certains m'apprécient. Je sens que la pression monte, certains m'apprécient. Enchanté, moi c'est Jessie B. Tu t'en rappelles pas, pourtant moi aussi. J'ai de Brazza ici, tout est bien. La musique est bonne et bien moi aussi. Excusez-moi, j'ai déjà vu quelle part. Tu t'en rappelles pas, pourtant moi aussi. Moi aussi. Enchanté, moi c'est Jessie B, tu t'en rappelles pas, pourtant moi aussi. J'ai de Brazza ici, tout est bien, la musique est bonne et bien moi aussi. Excusez-moi, j'ai déjà vu quelle part, tu t'en rappelles pas, pourtant moi aussi. Moi aussi, ah ouais, moi aussi, ok. Allô, t'es où, je te vois pas, tu m'appelles en fit avec toi, je me vois pas dans ça. Je suis bien sur ma FIFA avec le King et Wing, le gars toujours frais et il sait danser. Le gars n'est pas si moche que si, mais pas si moche que si, sans les mailles dans son caisse. Je pousse comme mes vœux, non, je suis pas ta réponse, donc allez-y, posez-vous des questions. Quand je t'intéresse, ce genre de sang les intéresse, car tu tables est mis en terrasse. J'ai visionné tes rêves, j'ai vite compris ce qui t'intéresse. Non, je suis s'occupera direct, le fit n'est pas terrible. Et beaucoup de potos m'ont déçu, j'ai la tête dans mon bol de ma dessous. Est-ce que je suis une fille assez décente? Et c'est le demande, j'y rallonge dessus. Enchanté, moi c'est Jessie B, tu t'en rappelles pas, pourtant moi aussi.
Moi aussi de Jessie B dans VMDN sur RFI. On en profite pour saluer nos auditeurs de Brazzaville. Et d'ailleurs, un morceau d'une jeune rappeuse qui n'a rien à envier à ses homologues masculins, elle non plus. Lorsqu'on lit votre essai, Léa Mormin-Chauvac, on est frappé par le travail colossal des sœurs Nardal, surtout Jeanne, Jane, Paulette pour la première partie du livre. Et on voit aussi qu'elles vont, elles aussi, comme Jessie B, démonter énormément de clichés sur la Martinique, sur les Antilles.
Bah, déjà, de toute façon, je suis contente d'avoir écouté ce morceau.
Super,
merci Jessie. C'est vrai qu'elles, elles ont décidé d'être ce qu'elles voulaient être à une époque où c'était quelque chose de totalement subversif. Je rappelle que Paulette Nardal, par exemple, elle n'a jamais été mariée.
Oui.
Pour une femme née en 1896, c'est quand même quelque chose d'impressionnant. D'ailleurs, ça vaut toutes les théories sur son statut marital ou pas. Moi, je pense que c'est simplement qu'elle voulait être indépendante,
tranquille.
Libre, tranquille et faire ce qu'elle voulait.
Voilà. Bonne idée.
Et ça, exactement. Et ça, déjà, c'est quelque chose, je pense, d'énorme et de... C'est vraiment un acte courageux et impressionnant, surtout, surtout vu son milieu social. Et ça a été ça toute sa vie. Et de l'imaginer comme ça, mais courir le Paris noir. J'ai retrouvé des extraits d'universitaires américains qui disaient qu'ils avaient rencontré cette Paulette Nardal sur laquelle tout le monde se retournait dans les rues de Paris, qui était devenue une référence, qu'on appelait, qui faisait visiter. Mais elle était d'une liberté incroyable. Et c'est tellement précurseur. Et ses sœurs aussi. Jane, c'est quelqu'un, c'est une personnalité dont les élèves se souviennent encore à quel point elle était originale, excentrique, qui se baladait avec ses ongles peints de couleurs toutes différentes, avec des vêtements en wax ou en basin, à une époque où à Martinique, ça ne se faisait absolument pas, avec des anneaux dépareillés, de grands chapeaux, des lunettes de soleil. Et elle donnait cours comme ça à ses élèves. Et une de ses élèves m'a raconté, au cours d'une projection du documentaire que j'ai coécrit sur les sœurs Nardal, qu'elle se rappelait de cette professeure qui faisait faire des tours comme ça entiers du lycée à la recherche d'une salle où il faisait frais. Allez, mes enfants, on y va. Et comme ça, et puis toutes, elles le suivaient comme des petits canards. Et puis elles cherchaient une salle où il faisait frais. Elle était vraiment la sœur délurée. C'était la sœur délurée et c'était la sœur qui fréquentait des réunions communistes dont on retrouve la trace aux archives nationales d'outre-mer à Aix-en-Provence. Donc délurée et puis politiquement aussi quand même engagée et qui n'a pas peur, qui n'a pas froid aux yeux.
Alors Paulette, dans le genre quand même très 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 étonnante parce que Paulette, on l'imagine aussi un peu, bon, elle a la foi, elle fréquente les dominicains, elle est croyante, elle est pratiquante. Et puis on découvre que quand même, Paulette, elle va préconiser, au siècle dernier, il y a quand même fort longtemps, les cours d'éducation sexuelle à l'école par exemple.
Ah oui, Paulette Nardal, elle sait qu'il faut absolument donner des armes aux jeunes filles martiniquaises pour qu'elles puissent être maîtresses de leur corps et être enceintes quand elles le veulent. Ça semble paradoxal. Je pense que pour quelqu'un de chrétien, c'était aussi sans doute un moyen de fournir une éducation sexuelle sans passer par d'autres moyens. C'est ça. Bon, elle était étonnamment précurseur sur certains points, étonnamment conservatrice sur d'autres. Et c'est pour ça aussi, encore une fois, que sa pensée est difficile à appréhender. Sur les autres sœurs Nardal, je voulais dire quelque chose, c'est qu'il y a aussi celles qui sont restées à la Martinique, qui ont majoritairement fait leur carrière à la Martinique, et notamment Lucie Nardal, proviseur du lycée de jeunes filles qui va devenir le lycée Bellevue maintenant. Et Lucie Nardal, ses anciennes élèves se souviennent aussi d'une femme d'un maintien incroyable, d'une rigueur incroyable, et qui apprenait déjà à ses élèves à travailler pour ne pas dépendre d'un mari.
Oui. Et puis Paulette, elle va être aussi très véhémente dans ses textes. Hein. Elle va écrire dans Femmes dans la cité, elle écrit « Et vous, placides bourgeoises, jeunes filles coquettes, petites employées indifférentes, ménagères affairées, paysannes craintives, domestiques mal informées, vous demeurez tranquillement chez vous, tandis que d'autres disposent de vos foyers, de vos droits, de vos libertés. » Elle envoie Paulette Nardal. Hein.
Paulette Nardal, elle n'aime pas la médiocrité.
Aucune des sœurs.
Et je crois que c'est vraiment un trait de famille. Et en fait, elle ne supporte pas l'idée que les femmes aient un droit et qu'elles n'en fassent pas usage. Je crois aussi qu'il y a une sorte de philosophie de vie qui est, en fait, vous ne pouvez pas vous plaindre si vous ne faites pas. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Et c'est ce qu'elle veut porter. Et puis c'est aussi qu'elle veut dire à toutes ces femmes qu'elles sont maîtresses de leur vie et qu'elles n'ont pas forcément besoin de compter, d'attendre après un homme pour donner la direction qu'elles veulent à leur vie. Dans un contexte comme ça, où les femmes martiniquaises sont à ce moment-là assaillies par des maternités, des grossesses successives et une vie comme ça de femmes à tenir tous les bouts d'une vie domestique, mais d'une vie de travail aussi. La question du travail pour les femmes martiniquaises, elle se pose très peu puisque de toute façon, elles travaillent déjà énormément. Et ce qu'elle veut leur dire, c'est vous avez déjà tout, vous savez tout faire, vous êtes des femmes potomitans, vous tenez la société antillaise, donc allez-y, allez jusqu'au bout et emparez-vous de la politique.
Et puis, il y a aussi cette idée très originale parce qu'elle motive les femmes, mais il y a aussi les hommes auxquels elle s'adresse, et notamment sur la question du partenariat multiple des hommes qui fait qu'il y a énormément de grossesses, il y a énormément de traumatismes, vous l'écrivez très bien, d'enfants qui ne vont pas être reconnus, qui vont apprendre qui et leur vrai père 10 ans, 20 ans, 30 ans plus tard. Elle dit aussi que ce qui génère des traumatismes et des drames, ces situations de concubinage multiple, en fait, attention messieurs, ça serait bien une trace, une séquelle de l'esclavage.
Oui, et elle dit des choses qu'on dit jusqu'à maintenant. Elle est frontale, Paulette Nardal.
À cette époque-là, elle ne va pas avec le dos de la cuillère.
À cette époque-là, ce n'est peut-être pas des choses qu'on dit publiquement. Elle, elle les dit. Et elle peut sans doute les dire parce qu'elle n'est pas mariée. Elle peut y aller. Et elle les dit, et encore, elle dit dans ses mémoires, elle dit beaucoup qu'elle s'est retenue, qu'il y a plein de choses qu'elle n'a pas dites, qu'elle s'est auto-censurée pour protéger sa famille. Donc on imagine si elle s'était vraiment lâchée. Mais en tout cas, le fait de pointer du doigt ça, c'était mieux parce qu'elle dénonce aussi une forme d'atavisme africain. Et là, c'est là où aussi elle est de sa génération et elle a cette vision réductrice. Mais elle pointe du doigt un problème qui, jusqu'aujourd'hui, est un problème de société fondamental dans nos sociétés entières. Pas le multipartenariat, les gens font bien ce qu'ils veulent, mais les conséquences que ça a sur les enfants.
Et le fait qu'il faut peut-être assumer le multipartenariat, peut-être y faire attention.
Et peut-être, voilà.
Et justement, en parlant d'aujourd'hui, en quoi ces infatigables femmes de lettres, de musique, d'écriture, puisque on n'en a pas parlé, mais il y a aussi la direction de chorale, de l'opéra, femmes et tout ça... Nos auditeurs pourront le retrouver dans votre livre, j'espère. Mais avant de se quitter, en quoi donc ces femmes, puisque Paulette aussi, elle va écrire en créole, elle va diriger une chorale qui va enregistrer des disques, joie de chanter. Femme de théâtre aussi, elle va faire de la mise en scène, elle va passer par la fiction. En quoi ces femmes, elles peuvent être inspirantes pour nous aujourd'hui ?
Petit point, c'est que je pense que sa façon de s'engager dans la culture à partir de ces moments-là, donc dans la musique, dans le théâtre, c'est une façon de poursuivre un combat politique. On se rend compte que l'égalité de fait est compliquée. On se dit qu'il va falloir devenir égaux par la culture et que c'est comme ça qu'on va éduquer les masses. J'ai essayé de le dire rapidement, donc c'est peut-être un
mais
peu...
Mais c'est très bien dit.
Et voilà. La question que vous me posiez, c'était comment faire aujourd'hui pour pouvoir les... Ben, je pense qu'il faut déjà les lire et c'est pour ça que je suis très contente d'avoir eu l'opportunité d'écrire cette biographie. Je suis très contente aussi qu'il y ait l'apparition de la première anthologie des textes de Paulette Nardal. Et je suis contente aussi qu'il y ait beaucoup de jeunes filles, beaucoup de gens qui m'écrivent pour me dire qu'ils ont envie de parler de Paulette Nardal, d'étudier Paulette Nardal. Donc allez-y, il faut faire des études sur
Allez-y, à bon entendeur, chers auditeurs. Merci beaucoup Léa Mormin-Chauvac d'avoir été avec nous pour parler de votre essai passionnant, Les Sœurs Nardal à l'avant-garde de la cause noire, qui vient de paraître aux éditions Autrement. Je vous propose qu'on se quitte en musique avec Il danse, Modernidad de MC Solar.
Je crois que la nana venait du Connecticut. On peut dire que la vie lui mettait des supercuts.
Serveuse dans le diner à coups des pommes motel.
Elle porte un tablier qui la rend super belle. Quand les clients arrivent, ils commandent des meatballs. Le regard dirigé vers le match de baseball.
Personne ne la regarde, pourtant c'est une beauté. Une femme ordinaire que l'on a sous-côté.
Mais dès qu'elle le peut, elle danse en arrière-salle. Personne ne peut voir qu'elle a le méga style. Dès qu'elle le peut, elle danse en arrière-salle. Personne ne peut voir cette danseuse étoile. Qui danse? Scénariste, ça break, ça danse, on est dans la street. Les groupes se forment, y'a des gars, des filles. Y'a du rap rock, y'a des défis. Et puis y'a ce mec en apesanteur. Moitié condor et moitié breaker. Un performer, je te le jure, j'insiste. C'est un danseur unijambiste. Personne ne demande ce qu'il fait là. Ici on se fout des vuvuzelas. Avec Becky, il devient gymnaste. Il gère l'espace, il est trop classe quand il danse. Il danse.
Il danse Modernidad, un extrait du nouvel album de MC Solar, VMDN. C'est fini pour aujourd'hui. Demain, vous retrouverez Jean-François Cadet. Merci à Pierre Plantier qui a réalisé cette émission. Merci à Baptiste Antoine qui l'a préparée. Je vous souhaite une très bonne soirée sur RFI. Vous m'en direz des nouvelles.
Qui danse?